Bonjour à tous. Merci pour l'invitation à cette colloque. Donc, je vais vous présenter le fond des plaques de verre de Marcel Aubert. Voilà. L'intérêt et l'utilisation de la photographie chez les historiens de l'art est né à partir de la deuxième moitié du 19e siècle. À partir de la fin du 19e siècle, la photographie devient un outil indispensable dans leurs conférences, cours et livres. Erwin Panofsky décrit bien le rôle central de la photographie comme une arme principale dans les débats de l'histoire de l'art. « Wer die meisten Fotos hat, gewinnt », je traduis, « qui a le plus de photos, gagne ». Dans le cadre de mon mémoire à l'École du Louvre, j'analyse les fonds photographiques de l'historienne de l'art Marcel Aubert, qui comprennent presque 2000 plaques de verre, des reproductions de l'architecture et de la sculpture du Moyen-Âge et de la Renaissance, collectées durant toute sa vie pour illustrer ses cours et publications. Ces dernières est considérée comme l'une des précesseurs de l'enseignement d'histoire de l'art en France. Ce fonds est conservé à la photothèque de l'École du Louvre depuis les années 60 grâce au don de sa femme. Figure majeure de l'histoire de l'art français, grand conservateur et archéologue du Moyen-Âge, Aubert fut une grande carrière en mettant de fonctions diverses et renommées. Parallèlement, il enseigne dans de nombreuses institutions universitaires, nationales et internationales, toujours accompagné de ses bottes lourdes remplies de plaques de verre. Aubert achète dans de nombreuses maisons d'édition les reproductions d'art et effectue également lui-même parfois des prises de vue. Sa capacité à examiner une œuvre, à la restituer et argumenter grâce aux instruments illustratifs, constitue encore une grande avancée dans l'histoire de l'art. L'objectif de mon intervention aujourd'hui est de montrer comment Aubert a utilisé ses plaques de verre dans ses cours et dans ses travaux scientifiques. A-t-elle influencé sa méthodologie d'enseignement et comment il a contribué à la fabrication et la diffusion du savoir? L'approche méthodologique utilisée pour ces plaques de verre et de faire des objets autonomes qui ne peuvent pas être réduits à leur seul contenu visuel, les archives photographiques sont devenues des objets de recherche envisagés dans une nouvelle perspective quant à leur statut, comme Constanza Carafa écrit dans son article « Photo Archive and the Photographic Memory of Art History ». Donc ces objets sont leur propre matérialité et une valeur documentaire qu'on voit bien parce qu'il y a les petites étiquettes, il y a les visuels qu'on envoie. Mais autour de plaques de verre, il y a toutes d'autres informations que j'ai utilisées pour analyser ces fonds. Et ça constitue une grande difficulté parce que la plupart, en fait, de ces plaques de verre, ils n'ont pas une attribution. La plupart sont anonymes, en fait. Il y a plus de moitié du fond qui n'avait que la description de la plaque de verre, mais ni d'où provient cette plaque de verre, quel éditeur. Pas des renseignements supplémentaires qui, effectivement, quand on essaye de reconstruire les plaques de verre dans un contexte, ça c'est complique parce qu'on n'a pas toutes les informations. Voilà. Ici, je vous montre rapidement juste une bibliographie un peu sélective avec les ouvrages clés que j'ai utilisés. Comme j'ai dit, notamment Carafa, Constanza Carafa, que j'ai vraiment beaucoup aimé dans son approche de considérer la matérialité de ces plaques de verre, mais aussi des ouvrages plutôt pour la bibliographie de Marcel Aubert. Et bien sûr, effectivement, tous ces ouvrages scientifiques. J'ai dit quelques mots pour Marcel Aubert, pas très longtemps parce que sa bibliographie, comme vous pouvez imaginer, est assez longue. Donc Marcel Aubert, le fils d'un architecte, rédige sa thèse sur la cathédrale Notre-Dame de Senlis en 2005 à l'École nationale de Chartres. Après son diplôme, il commence à travailler à la Bibliothèque nationale et en 2020, il est nommé conservateur du Musée du Louvre au département des sculptures du Moyen-Âge, de la Renaissance et des temps modernes. À côté de sa carrière, en tant que conservateur, Hubert enseigne pendant la majeure de sa vie. Il enseigne près de 30 ans à l'école de Chartres, en Moyen Âge. Il enseigne aussi à l'école du Louvre les cours d'art industriel de la sculpture. Il enseigne aux Beaux-Arts l'archéologie, le Moyen Âge et surtout l'architecture française. Durant les années 30, il donne aussi des cours à l'université de Yale. L'utilisation de la photographie et des plaques de verre chez l'historien de l'art au XIXe siècle est reliée d'une part avec les progrès techniques et d'autre part avec l'existence d'un intérêt particulier pour ces nouveaux médias à partir de 1850. Les critiques d'art Jules Janin prévoient déjà l'ampleur et les bénéfices réciproques de la photographie pour l'histoire de l'art dans son article publié en 1838. Selon lui, je cite, « La photographie est une image fidèle et tout le monument, de tous les monuments est une reproduction infinie des centaines de milliers de chefs-d'œuvre. » Toutefois, la photographie a divisé l'historien de l'art. En effet, on a souvent préféré l'utilisation de la gravure au détriment de la photographie en raison d'une mauvaise traduction des couleurs par des valeurs d'écrit ainsi que par l'imperfection initiale des premiers temps de la photographie. L'année 1850 marque un tournant pour la photographie avec ses améliorations techniques. La reproduction photographique d'œuvres d'art devient ensuite une spécialisation qui entraîne l'émergence de nouveaux marchés. Une quantité de maisons d'édition commence à émerger en France et à l'étranger, comme on a vu Alinari, Progui, ici, et, par exemple, les catalogues photographiques qui ont permis aux historiens ou aux gens de sélectionner leurs images. On trouve plein de ces types de catalogues, en fait, où ils ont listé toutes les images, et puis les historiens pouvaient faire leurs commandes. Là, par exemple, dans le fond, je trouvais, par exemple, une plaque de verre de la maison Brown, mais il y a d'autres maisons plus ou moins connues comme les archives photographiques, les Frères Nordin, Roubaix Éditeur, Ego 5, Cliché Compagnie Aérienne Française, la Bande Presse. Donc il y avait une variété en fait de différentes maisons d'édition que j'ai trouvées dans son fond. De plus en plus, les séminaires universitaires, les historiens de l'art ont systématiquement recueilli des photographies d'œuvres d'art et d'architecture. Au même moment, les projecteurs des plaques de verre commencent à s'imposer dans l'enseignement. Hermann Grimm, professeur d'histoire de l'art à Berlin, est l'une des premières à avoir l'idée d'utiliser cet instrument pour donner des cours. Dans son essai au Congrès de Vienne, il traite la question de la reproduction d'œuvres d'art et leur diffusion. Pour lui, les projections d'images ont indispensable pour l'étude de l'histoire de l'art. Donc la reproduction d'œuvres d'art a vite bouleversé les modalités de diffusion et a provoqué une révolution en matière de méthodologie dans l'étude d'histoire de l'art. Les cours illustrés deviennent un instrument indispensable et sert utile d'argumentation visuelle en histoire de l'art. Comme évoqué, Marcel Hubert a enseigné dans de nombreuses institutions universitaires, nationales et internationales. L'illustration joue un rôle primordial dans sa méthode d'enseignement. Ses plaques de verre l'ont constamment suivi en France et aussi à l'étranger. Que son fond lui a servi pour ses cours, c'est vérifié par de nombreuses indications présentes sur les plusieurs étiquettes que j'ai trouvées. Là, c'est juste un extrait, ils n'ont pas tous, comme expliqué, la plupart n'ont pas ces renseignements. C'est écrit à la main. C'est un peu mal visible, je m'excuse, c'était pas évident. Bon, parfois c'est écrit BA pour cours Beaux-Arts, MA Moyen-Âge, ou pour l'école de Chartres, c'est EC, L, cours de L, école du Louvre. Mais il fallait un peu du temps de comprendre toutes ces petites indications écrites à la main, pas toujours bien visibles, parfois rayées, parfois. Voilà, il fallait se mettre un peu dans sa place pour comprendre. Voilà. Et dans mon mémoire, plus autant, j'ai pu analyser ces cours donnés à l'école du Louvre, qui sont conservés à la bibliothèque des musées nationaux. En général, Aubert introduit chaque sujet avec une bibliographie riche, détaillée et constamment réactualisée. Citons par exemple la bibliographie pour la cathédrale de Strasbourg, des cours du 16 février 1949. Dans le cadre de son séminaire, l'histoire de la sculpture à l'école du Louvre. Il donne comme référence pour ses élèves des livres généraux, des monographies et des articles spécifiques publiés par des auteurs récents, mais aussi précédents. Tout ceci induit chez Marcel Aubert l'obligation d'utiliser un outil adéquat et à sa hauteur conscience professionnelle dans le monde académique. Les œuvres qu'a montrées Aubert dans ses cours sont numérotées et soulignées dans ses manuscrits. Voici l'exemple de son cours Notre-Dame de Paris, de 8 février 1848. Après l'introduction du sujet du cours Notre-Dame de Paris, chaque image est suivie par une courte description avec des renseignements généraux, comme hauteur, date, technique, une courte description de l'image, ainsi que des informations concernant leur composition, forme historique et l'iconographie de l'œuvre. Et comme vous voyez, c'est juste numéroté et souligné, mais il n'y a pas d'indication du numéro des plaques de verre utilisées. Donc je peux présumer, par exemple, pour l'exemple, l'Assomption, c'est numéro 3 en haut, il a utilisé ces plaques de verre. C'est bien possible parce que c'est le seul qui se trouve dans son fond à ces sujets. Il donne aussi parfois référence à l'état de conservation ou de restauration des monuments, ou par exemple ici pour la cathédrale de Notre-Dame, les toits après bombardement de 1914. Certaines plaques de verre s'inspirent de la mythologie comparative de Heinrich Pfefflin en présentant des photographies simultanément qui permettaient d'établir une comparaison stylistique entre deux œuvres différentes. Voilà. Heinrich Pfefflin utilisait deux projecteurs, donc là on est un peu plus avancé, on a sur une plaque de verre, on a deux images. La photographie des édifices se complète idéalement avec des plans et des dessins. Aubert réalise de nombreux plans lui-même ou aussi des dessins ou utilise d'autres plans et coupes. Dans le fond, 28 plaques de verre ont été réalisées par Aubert lui-même. Les clichés des détails architecturaux de l'intérieur de l'église dominent en particulier des voûtes, comme par exemple celle de l'église Notre-Dame de Morax. Pardon. Les voûtes gothiques forment un des axes principaux dans sa recherche. Ce sont bien celui-là d'un amateur, l'angle n'est pas tout à fait droit, très sombre, c'est vraiment plutôt pour la documentation. Pareil pour les bas-reliefs, la tentation d'Ève, du portail de la cathédrale Saint-Lazare. Le choix de la perspective est très atypique. La statue est photographiée non frontale. Dans la plus basse des représentations, cette statue est photographiée frontale. Sur exposé, un côté du visage disparaît et l'accent est mis sur l'arbre et feuilles qui se différencient de plus du fond noir. Bon, de toute évidence, les images ont été prises à fin d'étude pour des démonstrations dans ces cours. Il est très probable que lorsque le matériau n'était pas disponible, Marcel Aubert a pris un voyage pour prendre ses photographies. Une position particulière prend le vitrail, parmi ces plaques de verre qui sont les seules qui sont en couleur. Entre 1921 et 1924, Aubert a donné des cours en art industriel à l'école du Louvre, dont le vitrail composait une place centrale. Il est l'une des précurseurs de l'histoire du vitrail et il publie son premier livre sur les vitraux en 1937. Cependant, toutes les plaques des verres n'ont pas été reproduites en couleur. S'il se souvient Alain Brandenburg, historien de l'art et conservateur, ancien élève d'Aubert, après avoir participé à une conférence sur le vitrail. Je lui cite, Aubert a parlé sur les beaux vitraux avec des bleus profonds et des rouges rubis, mais pourtant, nous n'avons rien vu. Jusqu'en 1950, les illustrations en couleur dans les cours donnés par l'historien étaient très rares. Ils ont pendant très longtemps considéré les reproductions photographiques en noir et blanc comme suffisantes. C'est la raison pour laquelle les historiens ont eu la tendance à oublier l'importance de la couleur dans leur théorie. L'utilisation des plaques de verre contribue essentiellement à l'analyser et à la compréhension de l'architecture. Sans aisance des paroles et la passion de vouloir rendre compréhensible l'art gothique et roman, sans jamais basculer dans une vulgarisation et dans une polémique, comme souvent l'historien de l'art l'avait fait par le passé, Aubert n'a pas seulement attiré un public constitué d'élèves et de savants, mais aussi un large public. Ses activités professionnelles académiques font souvent l'objet des publications. Aubert a publié de nombreux ouvrages sur des sujets inédits et contribué à la recherche de nombreux édifices. À ce titre, il faut notamment citer ses recherches sur la cathédrale de Senlis, commençant avec sa thèse en 1905, ses nombreux articles et surtout sa monographie exceptionnelle à la fin de l'année, à la fin de sa vie en 1954. Parfois, ses ouvrages sont illustrés avec des photographies provenant des enfants. Dans la plupart des temps, les images sont issues des archives photographiques et des maisons d'édition. L'illustration de l'ouvrage d'art est sans doute déterminée par la croissance des archives photographiques complètes au XXe siècle. À partir de là, les images sont devenues un élément de plus en plus important dans les publications. Dans la publication « L'architecture sicilienne en France », en deux tomes, en collaboration avec la marquise de Genève Aliette Rouen-Chabot-Maillet, en 1947, les reproductions d'églises et des plans architecturaux sont intégrées dans les textes. Le total des illustrations étant environ 560 figures et photographies en noir et blanc. Parfois, les photographies correspondent avec celles du sans-fond. Le choix de privilégier des photographies des sans-fond s'explique simplement parce que c'est beaucoup plus simplement et accessible pour lui. En revanche, l'ouvrage « Les cathédrales et trésors gothiques de France », publié par l'auteur Artaud en 1958, ne possède pas de photographies des enfants. La publication représente des photographies d'une qualité extraordinaire dont la réalisation était extrêmement coûteuse. Il y avait une campagne pour réaliser des photos pour cette publication. Composée de 450 photographies, l'esthétique des images noir et blanc, marquée par un jeu de lumière et d'ombre, met l'accent sur l'atmosphère obscure du Moyen Âge. Les belles photographies sont insérées en bloc en bloc et pas comme dans l'exemple précédent dans les textes. Et c'est assez intéressant en fait de se rendre compte aussi l'insertion des images en texte ou en bloc n'a pas les mêmes argumentation. C'est souvent on oublie en fait que les choix d'images et de les mettre, ça sert à la fois à illustrer, mais aussi effectivement à argumenter une thèse ou un propos. Donc dans les ouvrages de Marcel Aubert, la partie illustrative joue un rôle essentiel et elle est en lien avec sa méthode d'enseignement, en s'appuyant sur des photographies pour illustrer et argumenter. Cela permet d'expliquer ces théories des savants exigeantes et en même temps atterrir un grand public. Il est très intéressant parce qu'Aubert, il avait notamment en Allemagne, pendant les années 1960-1970, il avait un gros succès de ses livres. Aussi, il y avait des guides touristiques, en fait, par lui. Aubert, homme intellectuel et indépendant, a apporté considérablement à la société académique avec ses publications scientifiques et ses cours d'histoire de l'art. Comme Paul Deschamps le résume, et fut un professeur éminent, ce que les médecins appellent un grand patron. On ne peut imaginer une vie de savant dont l'œuvre s'intégrait davantage à son enseignement. Donc pour conclure, le rôle de la photographie prend une place très importante dans ses études, dans l'enseignement et aussi dans ses publications. Cela se reflète aussi dans les classements systématiques des enfants. C'est par ordre alphabétique, d'abord des plans, des vues aériennes, les bâtiments, des vues extérieures, ensuite intérieures et enfin des détails. Donc cela reflète les classements des enfants, se reflète en fait dans son méthode d'enseignement. Il est l'une des premières qui prend conscience de la couleur dans ses théories, comme on a vu avec les plaques de verre des vitraux. L'utilisation des plaques de verre contribue essentiellement à l'analyse et à la compréhension de l'architecture, qui a permis à Aubert d'atteindre un public assez large, composé des savants et d'un public, un grand public. Merci beaucoup.
Merci beaucoup pour cette étude monographique consacrée donc à un grand spécialiste de l'architecture médiévale. Et si je peux me permettre, toutes mes félicitations pour votre niveau de français. Bravo. Merci. Je vous en prie. Bien, alors en accord, je crois, avec les organisateurs, étant donné que je suis un président de séance gâté par les dieux de la photographie et de la montre, puisque nous avons de l'avance, ce qui est somme toute assez rare. Donc je crois que nous pouvons maintenant réserver une partie de discussion avant la pause et la reprise des communications donc un peu plus tard. Donc la parole est à vous et je tendrai le micro à celui qui, ou celle, pardon, qui souhaite poser une question.
Merci. J'aurais une question pour Madame Melby, qui nous a, qui connaît très bien évidemment ce fonds de photographie de Marcel Aubert, et j'aimerais bien savoir s'il y a parmi ces photographies qui évidemment ont été parfois même créées lors des grandes campagnes pour illustrer ces publications, ces ouvrages. S'il y a dedans des traces, disons, d'une photographie un peu manipulée, fléchée de manière à soutenir les hypothèses du savant. Ce qui se trouve à l'époque contemporaine, dans les pays germaniques, les photographies de Walter Hege et le maître de Naumburg. Donc c'est tout un mythe qui a été créé par les historiens de l'art, mais en collaboration avec les photographes qui leur ont fourni le matériel pour construire leurs hypothèses. Ou est-ce qu'il y aurait plutôt chez Marcel Aubert une sorte de clarté française, une neutralité, objectivité archéologique?
C'est une très bonne question, parce que est-ce qu'on peut vraiment parler qu'une photographie peut être neutre? Parce qu'il y a, je pense, en Allemagne ou en France, il y a toujours une intention de photographe, une construction d'image, une construction de la réalité, qui est une construction qui n'est pas la réalité. Donc, dans tous les cas, en Allemagne ou en France, les historiens de l'art ont utilisé la photo pour appuyer son argumentation. Et déjà, par exemple, prenant une photo d'une église, de vue ensemble, ou d'un détail, c'est un choix. Si on prend une photo de générale, bon, on montre la photo, mais d'avoir sélectionné par exemple un détail, c'est déjà un choix et ça guide déjà les regards des lecteurs. Quand on a vraiment ces sujets, je n'ai pas plus les informations comme il a vraiment travaillé avec ses campagnes photographiques. Mais prenons l'exemple de ses photos propres à lui. Mais il a choisi un angle, il a choisi, par exemple, pour la statue d'Ève, qu'il n'a pas présentée comme la plupart des temps comment dire, frontale, même un angle un peu, et aussi la lumière qui met en évidence en fait les feuilles. Peut-être dans ses cours, il voulait expliquer que l'arbre et les feuilles. Moi, j'étais pas là, c'était son cours, mais j'imagine peut-être c'était intentionnel, mais peut-être c'est par hasard parce qu'il a utilisé un caméra bon de mauvaise qualité, il a pris vite fait la photo. On ne s'est pas rendu compte que ce n'était pas droit. Donc, on peut faire des hypothèses. Mais moi, je ne veux pas dire que je défends, mais je défends quand même la position. Une photo, en tant que telle, ne peut pas être neutre. Il y a toujours une tension, il y a toujours une photo documentaire à une position.
Ça pourrait mener à des recherches.
Oui, bien sûr. Je pense même à la compétition, par exemple, comme j'expliquais, entre les lisions des textes et de l'image, aujourd'hui, on les prend comme une fée. Mais en fait, c'est une construction aussi d'une pas une réalité, mais une construction des textes, ça guide aussi les lecteurs. Donc, en choisissant telle ou telle image, à tel ou tel endroit, peut avoir, sans conscience, en fait, un impact sur les lecteurs. Donc, il faut toujours être lire et regarder attention, avec attention et avoir en tête que c'est une construction fictive, on peut dire.
Oui.
Merci. J'ai aussi une question à vous, Madame Melby. Merci beaucoup pour votre conférence. Probablement, vous connaissez ces textes emblématiques de Heinrich Wölfflin, Comment photographier les sculptures. Et je me demandais si aussi Aubert, peut-être, il a écrit quelque chose sur la photographie, comme c'était tellement important pour lui l'utilisation de l'image aussi pour ses cours.
Il n'y a pas de.
De ma connaissance, non. Bon, il y avait. J'avais un temps assez limité pour ses mémoires, donc. Peut-être dans ses notices, parce qu'il y a un grand archive à l'INACHA, avec des notes, des notes écrites à la main, peut-être en dépouillant, en fouillant, peut-être en trouvant quelques notes sur la photographie précise. Mais je n'ai pas trouvé un article de lui publié pour la photographie. Je pense à cette époque, la plupart des historiens l'ont utilisé comme instrument. Mais ils n'ont pas réfléchi, en fait, ils n'ont pas écrit des articles.
Oui, moi, j'aurais envie de dire plusieurs choses à la suite des deux premières communications. Peut-être d'abord une question un peu générale qui s'adresse aux deux. J'ai l'impression qu'on n'a pas distingué dans ces exposés les plaques photographiques qui avaient été produites par des maisons d'édition de celles qui étaient réalisées à partir de livres. Car nous avons une grande quantité de plaques à Strasbourg, par exemple, qui ont été faites d'après des livres qu'on peut facilement retrouver, dont on peut facilement retrouver l'origine. Et je crois que c'est très important, parce que cela signifie que à partir d'un certain moment, les enseignants ont considéré que la meilleure façon d'avoir une photothèque riche et de plus en plus complète était en effet de faire des photos d'après des livres, ce que nous avons continué de faire jusqu'au moment, d'ailleurs aujourd'hui encore évidemment, jusqu'au moment où l'usage de la diapositive s'est généralisé. Bon, ça c'était une première chose. L'autre observation que je voulais faire concernait plutôt Marcel Aubert. Alors, et la question ou la remarque de Marc Schur. C'est vrai que ces dernières années, on a beaucoup réfléchi sur ces questions de la manière dont la photographie pouvait induire une lecture idéologique de l'art, bon, de manière générale. Je crois que là, il faut distinguer entre l'intention et son strict opposé, qui est l'inconscient. Dans quelle mesure n'y a-t-il pas chez certains auteurs, on parle ici de Marcel Aubert, non pas une volonté affichée, affirmée, de faire l'apologie de l'art français, mais une volonté néanmoins de le faire. Et inconsciemment, Aubert accumule les photographies, les mises en page, car je crois que là, il a joué un rôle considérable beaucoup plus peut-être que sur le choix des photographies, la mise en page des livres qu'il a écrits, qui constituent en eux-mêmes, en elles-mêmes, pardon, un discours. Et dans cette mesure-là, je crois que Marc Chour a tout à fait raison, il faudrait peut-être réfléchir à ces questions d'une manière plus approfondie, en particulier à l'aide, comme ça a été dit par mademoiselle, à l'aide de la correspondance, à l'aide des notes personnelles, d'essayer de voir quelles étaient les implications de l'image dans le discours plus général sur l'art que tenaient ces historiens. Et je crois que là, on arrivera peut-être à certaines conclusions. Pour le moment, je crois qu'on est encore loin de ce résultat, parce que le travail de défrichage a seulement commencé, ce qui est tout à fait normal.
Merci. Est-ce qu'il y a... Oui. Ben oui, moi.
Oui, c'est une question... Oui, qui est posée au corps professoral d'aujourd'hui. Étant donné que je suis auditeur libre à mon âge, je vois toutes les photographies qui sont projetées dans les cours d'histoire de l'art que je suis. Les questions sont les suivantes. D'où viennent ces photos ? Et est-ce que vous avez, disons, une idée de faire passer ces photos à la postérité ? C'est-à-dire, vous travaillez sur les plaques anciennes, mais est-ce que vous constituez une collection de photos d'histoire de l'art qui est pensée et que les étudiants, dans 30 ans ou 40 ans, cette collection pourrait faire l'objet d'une thèse ? Donc, est-ce que c'est chacun pour soi ou bien est-ce que vous travaillez ensemble à constituer quelque chose ?
Voilà. Il y a beaucoup d'éminents collègues dans la salle qui vont pouvoir répondre à cette question embarrassante.
C'est un petit peu embarrassant, en effet. Pour ma part, je travaille pour moi-même. C'est-à-dire que je constitue ma collection qui est sur mon ordinateur et un disque dur externe pour la sauvegarde, et c'est tout. Entre les plaques de verre et les photos numériques, il y a eu les diapositives donc, qu'on évoquait tout à l'heure, 24-36, noir et blanc, couleur, qui sont là complètement conservées pour le moment à l'Institut d'Histoire de l'Art. Donc c'est un autre lieu, mais on a encore un stock qu'on laisse pour les générations futures, hein, qu'ils étudieront de la même manière que nous nous lançons dans l'étude des plaques de verre. Donc j'en sais rien. Pour les photos numériques, je ne sais pas. Il n'y a pas. Alors, on en avait rêvé, hein, de ces grandes banques d'images qui seraient accessibles, dans lesquelles on pourrait aller puiser chacun plutôt que de chercher soi-même chaque fois toutes les photos dont on a besoin. À ma connaissance, sauf si quelqu'un m'apprend le contraire, mais à ma connaissance, ça n'existe pas. Donc, bien sûr, sur des sites particuliers. Oui, voilà, différents sites, mais pas institutionnellement, j'entends. Il n'y a pas. Il me semble que ça avait été évoqué à l'INHA, enfin, j'en sais rien. Mais après, bien sûr, il y a des sites où on peut trouver, plus spécifiques, on peut trouver des choses, oui, bien sûr. Mais on y va comment ? Un peu comme ça. Enfin, il n'y a pas une référence. Là, je ne sais pas. Enfin, je ne la connais pas, en tout cas.
J'ai l'impression qu'on pourrait distinguer là deux types de collections. Il y a les collections qu'on peut considérer comme patrimoniales et qui, là, sont gérées comme tous les fonds d'archives. Je pense aux écoles françaises à l'étranger, aux musées nationaux, enfin, au musée du Louvre. Et puis, il y a les collections, si j'ai bien compris votre question, qui relèvent davantage de l'heuristique par leur classement. Et ça, tout de même, il y a un certain nombre de grands instituts d'histoire de l'art qui ont été fondés autour de leurs collections de photos. Enfin, commencé par le Warburg à Hambourg et puis ensuite à Londres, où la manière de classer les photos, les rapprochements, est absolument fondamentale. Et alors d'ailleurs, dans la suite de cette réflexion, moi j'aurais une question. Dans les deux communications, il a été question de ce que vous avez appelé, à juste titre, la méthode comparative que permet précisément ces projections. Et je crois que dans chacune, il y avait une image avec deux tableaux, enfin, ou deux... est-ce que c'était systématique ? Enfin, comment c'était ? Est-ce que c'était systématique ? Est-ce qu'il y a beaucoup d'exemples de ces photos doubles, en quelque sorte ? Et est-ce qu'il y a des exemples, dans ces années-là, de doubles projections ? J'ai moi-même connu, c'est une expérience qui maintenant remonte à beaucoup d'années, j'ai connu un professeur, très... enfin, très sensible à cette question de la comparaison et qui venait avec deux, voire trois appareils de diapositives qui projetaient. C'était assez rare. Enfin, moi, j'en ai connu qu'un seul, c'est Francis Croissant, et qui adoptait donc une méthode de comparatif très, très riche. Alors, est-ce qu'on retrouve ces exemples-là ? Parce que je sais que dans les gens qui ont écrit sur la photo et la pédagogie, il y en a quand même, à commencer par Michaelis, excusez-moi de revenir sans arrêt sur mon maître et prédécesseur ici, il a écrit, lui, sur la méthode comparative et la photo, et il a des phrases tout à fait décisives, et il construit des planches, mais c'est des planches papier. Je n'ai pas, enfin, on va me contredire peut-être, mais je n'ai pas vu ces planches sous forme de plaques de verre, où il fait, il présente une dizaine de photos avec des éclairages différents de tel ou tel élément de la frise des Panathénées, par exemple. Donc, alors, quelle est la part du comparatisme ? Parce que c'est, au fond, la grande possibilité offerte par ces projections.
Si je peux... Ça fonctionne. Bon, si je peux donner une réponse personnelle, à Tübingen, où j'ai fait mes études, toutes les salles étaient équipées de deux projecteurs. Hein. Et je pense, dans les pays germaniques, c'était la normalité depuis, je ne sais pas, 100 ans. Hein, depuis Wölfflin a commencé ses projections en parallèle. Donc, pour l'histoire de l'art, c'est même, je dirais, l'art de la comparaison, c'est ce qui faisait un bon professeur, hein, de voilà, présenter des comparaisons séduisantes ou particulières. Voilà. Et je voulais encore, peut-être ça vous intéresse, faire mention du projet qu'il y a dans les pays germaniques du Prometheus Bildarchiv. Ce sont les diathèques numérisées, scannées, de presque tous les grands instituts d'histoire de l'art. Donc c'est Berlin, Berne, vous avez le choix. Le problème, c'est plutôt trouver les images, parce que, par exemple, si vous cherchez le David de Michel-Ange, vous avez tout de suite 300 propositions et 200 fois, c'est la même image numérisée, parce que c'est simplement les diathèques individuelles numérisées. Et il manque, ça devient très apparent, il manque une sorte de moteur de recherche visuelle. Parce que ça dépend toujours, la base de données et dépend des mots-clés, donc des mots, des descriptions. Et là, il n'y a pas de normes. Et donc, automatiquement, on a du mal à trouver les images qu'on cherche. Soit on a trop ou pas assez. Mais, donc, pour la postériorité, je la enverrai vers Prometheus. Moi, individuellement, je puise dans ce levier et voilà.
On peut signaler la très grande collection aujourd'hui en ligne de l'Institut archéologique allemand, où tout est quasiment en ligne, donc sculptures et monuments, et qui alors, est remarquablement indexé. C'est l'université de Bonn, hein, Bochum, là, qui s'en est occupée. Et là, on dispose là, d'un fonds qui est pérenne. Mais évidemment, la grande difficulté, c'est la pérennité du support numérique. Mais là, c'est un autre débat. Voilà. Alors, je vois qu'il y a des questions en fond de salle. Donc, oui, Frédéric d'abord, et puis ensuite Samuel.
Oui, c'est plutôt un élément de réponse à la question de Jean-Yves à propos de la double projection. Parce que tout à l'heure, je commenterai un texte concernant un projet d'acquisition d'un projecteur double où le but de la comparaison est énoncé par les facultés de philosophie et les deux facultés de théologie en 1913 de notre université. Donc, il y a un élément.
Oui, je voudrais poursuivre sur ce thème. La recherche de la vue comparative a un impact matériel très fort parce que ça entraîne les universitaires à privilégier le tirage papier sur l'acquisition verre, parce que c'est plus facile après de faire, c'est ce que je vous montrerai, de faire des découpages et de faire des montages à partir de tirage papier qu'à partir de plaques de verre. Ça coûte moins cher d'une part, et d'autre part, ça permet de faire donc ces montages de façon beaucoup plus aisée, et après on cache. Et donc je pense que dans les universités françaises qui étaient probablement moins bien pourvues que les universités allemandes, où on ne pouvait pas avoir justement ces deux projecteurs, eh bien, du coup, on achetait moins de plaques sur verre et on achetait beaucoup plus de tirage papier parce qu'après, justement, on pouvait procéder à ce genre de montage.
Oui, pour la collection de l'Institut d'Histoire de l'Art, nous avons aussi quelques plaques qui montrent comme ça des comparaisons, qui sont d'ailleurs des montages. Elles sont relativement rares, en tout cas pour ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et effectivement, à notre connaissance, nous n'avons pas eu trace de double épidiascope utilisé en même temps pour un même cours, parce que ça rend les choses extrêmement compliquées. J'ai souvenir, moi, à l'école du Louvre où j'ai fait mes études, qu'il y avait effectivement deux projecteurs qui fonctionnaient d'ailleurs tout à fait en lien. Et il y avait même l'un des deux carrousels qui n'était pas forcément entièrement rempli pour que justement les choses puissent se comparer le moment voulu. Ce qui complique quand même beaucoup les choses si on utilise un épidiascope.
Désolé, je reprends encore la parole. Mais pour un témoignage personnel, en effet, la double projection était en usage jusque dans les années 70. Nous avions, dans une des salles du palais universitaire, deux projecteurs en permanence. Enfin, l'un était fixe, on ne pouvait pas le voler, donc on pouvait le laisser en place. L'autre, il fallait rapporter depuis l'Institut, c'est-à-dire gérer un projecteur de diapositives, le premier permettant de projeter des plaques. Donc nous utilisions encore des plaques jusque dans les années 70, plus un troisième appareil qui était l'épidiascope. À partir donc de livres ou de calques, on pouvait projeter, notamment pour l'architecture, des documents. Donc ça, c'était jusque dans les années 70, pratiquement jusqu'à mon départ de l'Université de Strasbourg, donc fin 70. Et puis, alors, juste encore un dernier point à propos de la double projection, mais je pense qu'on en reparlera au cours du colloque, c'est ce que ça implique sur le plan épistémologique, je dirais. Parce que la question de la comparaison a développé d'une manière évidente le formalisme. Et ça, évidemment, avec Wölfflin, ça va sans dire, mais ça a développé le formalisme de manière générale, aussi bien chez un Faucillon que chez les historiens de l'art allemand. Donc je crois que ça, c'est une notion dont il faut énormément tenir compte. Et puis un dernier rappel historique, c'est que Warburg utilisait à Hambourg deux projecteurs simultanément pour faire des projections comparatives, plus un épidiascope aussi. Donc il avait déjà ce type d'instrument à sa disposition. Et je crois qu'aujourd'hui, on revient un petit peu sur l'hypothèse de Heinrich Dilly qu'il avait développée dans les années 70, à savoir que, en fait, ce seraient les doubles projections de Wölfflin qui l'auraient incité à faire ses principes fondamentaux qui reposent sur la binarité, justement. Or, il semblerait que ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées et qu'en plus, Wölfflin n'était pas le seul à faire des doubles projections. Donc, peut-être que cette rupture, cette révolution copernicienne n'a pas vraiment eu lieu.
Je vois qu'on était, jusque dans les années 70, mieux formés à l'université de Strasbourg avec double projection qu'à l'université de Paris, où moi je n'ai eu qu'un seul professeur avec double projection, tout le reste était une seule projection. Voilà, j'aurais dû faire mes études ici.